Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 11 février 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. En RDC, les combats ont repris entre le M23 et des troupes rwandaises qui ont attaqué mardi des positions congolaises dans la province du Sud Kivu. Au Soudan, la guerre qui sévit depuis avril 2023 a entraîné la pire crise humanitaire au monde, a déploré mardi l'Union africaine. Le président américain Donald Trump a signé un décret fixant au 12 mars la date d'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, sans exception ou exemption. Le roi Abdallah II de Jordanie s'apprête à rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche mardi. Et dans notre partie magazine, l'armée soudanaise a annoncé samedi avoir pris un secteur stratégique de la capitale aux forces de soutien rapide FSR, alors que des milliers de familles ont fui Darfour Nord après une attaque de paramilitaires.
L'armée et des milices qui lui sont alliées, qui ont été organisées grâce aux islamistes. Ces milices fournissent des troupes de choc et l'infanterie qui manquait jusqu'à présent à l'armée soudanaise. Et donc on a eu des victoires.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Des affrontements entre le groupe armé M23 allié à des troupes rwandaises et l'armée congolaise sont en cours dans l'est de la RDC aujourd'hui, trois jours après un appel de dirigeants africains à un cessez-le-feu qui a été suivi d'une relative accalmie. Jacques Aristide.
Les rebelles du M23 et des soldats rwandais ont attaqué à l'aube des positions de l'armée congolaise après Djihoussi, d'après des sources sécuritaires et locales qui ont fait état de détonations d'armes lourdes. Cette localité est située à environ 70 km de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, où le M23 et les troupes rwandaises ont progressé après s'être emparés fin janvier de Goma, capitale de la province voisine du Nord Kivu. La peur d'une prochaine attaque s'est déjà emparée de Bukavu, cité d'un million d'habitants. Les écoles ont fermé vendredi. Ce mardi, les banques sont restées portes closes, alors que la situation humanitaire s'aggrave dans cette région orientale de la RD Congo. Environ 10 000 militaires burundais sont déployés au sud Kivu en appui de l'armée congolaise, rapporte l'AFP citant une source sécuritaire qui ajoute que Bujumbura a envoyé vendredi au moins un bataillon supplémentaire dans la zone. Il y a trois jours, les dirigeants d'Afrique australe et de l'Est, réunis en sommet en Tanzanie, ont appelé leurs états-majors à proposer un plan de mise en œuvre d'un cessez-le-feu inconditionnel d'ici jeudi. Le président rwandais Paul Kagame était présent à Dar es Salaam, tandis que son homologue congolais Félix Tshisekedi participait en visioconférence. La guerre dans l'Est congolais doit être abordée lors d'une réunion de l'Union africaine à Addis Abeba ce vendredi.
Toujours en RDC, au moins 51 personnes ont été tuées par des hommes armés affiliés à la milice Codeco dans le nord-est du pays, région où les violences communautaires sont récurrentes, a-t-on appris mardi de sources locales et humanitaires. C'est encore un bilan provisoire car la fouille se poursuit, a précisé Jules Touba, président de la société civile du territoire de Djougou qui englobe ces localités. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a nommé un nouveau vice-président vu comme son potentiel successeur et limogé son chef des services de renseignement dans un large remaniement de l'administration du pays, Benjamin Bolmel, qui remplace James Wani Iga en tant que vice-président en charge de l'économie, est vu par les médias locaux comme le premier choix du président Kiir pour lui succéder s'il venait à être empêché de diriger. La guerre qui sévit depuis avril 2023 au Soudan a entraîné la pire crise humanitaire au monde, avec des centaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition et sévères aigus, a déploré ce mardi l'Union africaine. L'organisation appelle à un dialogue politique pour résoudre ce conflit et soulager la population. Plus d'infos avec Nani Talani.
Les combats incessants au Soudan depuis le début de la guerre le 15 avril 2023 ont entravé l'accès à l'aide humanitaire, entraîné une pénurie de nourriture et aggravé la faim. Les enfants et les femmes sont continuellement maltraités et les personnes âgées et malades manquent d'assistance médicale, a affirmé le président du groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan. Il s'agit de la pire crise humanitaire au monde, a-t-il poursuivi. Pour l'Union africaine, seul un dialogue politique intersoudanais et non l'option militaire peut mettre fin à cette guerre. Elle ajoute que quelque 431 000 enfants ont été hospitalisés en 2024 à cause de malnutrition sévère aiguë, soit une hausse de 44% par rapport à 2023. La famine touche actuellement 5 régions au Soudan, dont 3 dans le Darfour Nord, et devrait se propager à 5 autres districts d'ici mai, selon l'ONU. Le rapport de l'IPC indique que 24,6 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë d'ici mai. L'ONU accuse les FSR d'entraver l'acheminement de l'aide humanitaire dans le Darfour, déjà menacé de famine.
Toujours au Soudan, la plus grande coalition civile, Takadoum, s'est scindée en lundi en 2 mouvements après des désaccords sur la formation d'un gouvernement dans les zones contrôlées par les paramilitaires en guerre avec l'armée. Takadoum, qui rassemble des partis politiques et des syndicats, a expliqué dans un communiqué que la division était due à 2 visions opposées sur la question de la formation d'un gouvernement parallèle. Dans ces zones, désormais, chacun de ces 2 mouvements aura une structure politique et organisationnelle séparée et opérera sous un nouveau nom.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le roi Abdallah II de Jordanie est reçu aujourd'hui à la Maison Blanche par Donald Trump pour des discussions qui s'annoncent tendues. Le monarque devant de nouveau exprimer son opposition à celle des États arabes au plan du président américain pour Gaza. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le roi Abdallah II et le prince héritier Hussein rencontrent Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison Blanche. La rencontre se déroule au lendemain des déclarations de Donald Trump qui a affirmé envisager de mettre fin aux milliards de dollars d'aide à la Jordanie et à l'Égypte si les deux pays refusaient d'accueillir les Palestiniens déplacés hors de Gaza, comme le voudrait son projet. Elle intervient en outre dans un contexte de fragilité pour le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, Donald Trump ayant promis qu'un véritable enfer se déchaînerait si le mouvement islamique palestinien ne libérait pas les otages prévus par l'accord d'ici samedi. La Jordanie est un allié clé des États-Unis au Moyen-Orient, mais Abdallah II a rejeté la semaine dernière toute tentative de prise de contrôle des territoires palestiniens ou de déplacement de leurs habitants. Le souverain et le prince âgé de 30 ans ont déjà rencontré le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, a annoncé ce mardi le palais royal jordanien sur la plateforme X.
L'Union européenne s'engage à prendre des contre-mesures face aux droits de douane américains du côté du Mexique. Le gouvernement demande au président américain Donald Trump de ne pas détruire les équilibres commerciaux et de croissance de l'Amérique du Nord avec l'application de ses droits de douane. Alexandrine Rolognon.
Les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium ne resteront pas sans réponse et déclencheront des contre-mesures sévères de la part du bloc des 27 pays, promet Ursula von der Leyen, chef de l'Union européenne. La ministre du Commerce de l'UE a prévu une première réunion vidéo d'urgence sur la réponse de l'Union ce mardi. Le président de la Commission du commerce du Parlement européen affirme que les motos, les jeans, le beurre de cacahuète, le bourbon, le whisky et toute une série de produits pourraient affecter les exportateurs américains si les droits de douane américains entrent en vigueur le 12 mars. Le Canada a aussi fermement condamné ces droits de douane. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce travailler avec l'administration américaine au cours des prochaines semaines pour mettre en évidence les impacts négatifs de ces droits de douane qu'il qualifie d'inacceptables. Le président américain Donald Trump accuse notamment certains des pays auparavant exemptés de servir de plaque tournante pour réexpédier vers les États-Unis de l'acier ou de l'aluminium en provenance de Chine.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio se veut rassurant quant à l'avenir du PEPFAR, le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida. Dans une interview à la radio satellitaire Sirius XM, il a affirmé être un partisan du PEPFAR du temps où il siégeait au Congrès et maintenant qu'il est chef de la diplomatie américaine. C'est un programme que nous voulons poursuivre, a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que la nouvelle administration américaine aura des questions à ce sujet.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
La Banque africaine de l'énergie, qui financera des projets pétroliers et gaziers et soutiendra les objectifs de transition énergétique du continent, sera lancée au premier trimestre 2025 et visera une base d'actifs de 120 milliards de dollars. La banque axée sur les combustibles fossiles est un partenariat entre l'institution de financement du commerce Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africain. Le FMI exhorte le Maroc à cibler l'inflation et à élargir l'assiette fiscale. Le FMI a également recommandé au gouvernement d'agir sur le chômage en se concentrant sur la main-d'œuvre déplacée du secteur agricole en raison de la succession de sécheresses. Le taux de chômage au Maroc a grimpé à 13,3% l'année dernière, contre 13% l'année précédente. L'agriculture continue à perdre des emplois, selon les chiffres officiels. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, entame ce mardi 2 jours d'audition semestrielle devant le Congrès. Le responsable de la politique monétaire intervient ce mardi devant la commission bancaire du Sénat, puis demain mercredi à la même heure devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants. La Fed a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 4,25% à 4,5% après l'avoir réduit d'un point de pourcentage lors des 3 dernières réunions de 2024.
Place maintenant sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
En Italie, la Fiorentina soutient son attaquant Moïse Kean, visé par des insultes racistes.
L'Italien a posté sur son compte Instagram des captures d'écran de certains des messages insultants reçus après la défaite de son équipe à San Siro, suivi du commentaire « Cela continue en 2025 ». Les auteurs de ces actes ont été signalés aux autorités compétentes, a annoncé la Fiorentina sur X. Le club exprime son soutien à Moïse Kean, a ajouté la Viola. L'Inter Milan et la Juventus, où a évolué Kean, ont également condamné sur X les insultes. Moïse Kean est actuellement le deuxième meilleur buteur de Serie A avec 15 réalisations. Le joueur de 24 ans a déjà été victime de racisme dans les stades de Serie A, la première fois en 2019 à Cagliari.
Riyad accueillera les premiers Jeux Olympiques de l'Esport décalés à 2027.
Les premiers Jeux Olympiques de l'Esport, initialement prévus dès cette année, se tiendront finalement en 2027 à Riyad, renforçant encore le poids croissant de l'Arabie Saoudite dans la géopolitique sportive. En revanche, le parcours qualificatif pour cette nouvelle épreuve commencera dès cette année avec les premières compétitions olympiques, précise le CIO qui a confié le nouvel événement au Royaume du Golfe pour 12 ans.
NBA, début gagnant pour Doncic avec les Lakers, Wembanyama en mode All-Star pour les Spurs.
Luka Doncic a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs californiennes avec les Los Angeles Lakers lundi et inscrit 14 points lors de la victoire à domicile contre le Utah Jazz 132-113. La superstar slovène de 24 ans est appelée à assurer l'avenir des Lakers dont la tête de LeBron James qui a terminé avec 24 points a dépassé la barre des 40 ans. À Washington, Victor Wembanyama était déjà prêt pour le week-end All-Star qui arrive entre le 14 et 16 février. Le Français a brillé lors de la victoire des San Antonio Spurs sur le parquet des Washington Wizards 131-121. Il a inscrit 31 points, pris 15 rebonds, réussissant 2 interceptions et 3 contre. À l'Est, les Cavaliers conservaient leurs 5 victoires d'avance sur Boston qui a tranquillement battu Miami 103-85 malgré les 44 points d'Anthony Edwards. Pour les Minnesota Timberwolves, Cleveland s'est imposé 128-107 et maintient sa domination sur la conférence Est. 6 joueurs des Cavaliers ont dépassé la barre des 10 points. À Milwaukee, Stephen Curry a inscrit 38 points, son record cette saison, lors de la victoire de ses Golden State Warriors face aux Bucks, 125-111. Enfin, solide leader de la conférence Ouest, Oklahoma City a avalé les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 137-101 pour signer une 6e victoire d'affilée.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Alors que des milliers de familles ont fui Darfour Nord après une attaque des paramilitaires, l'armée soudanaise a annoncé samedi avoir pris un secteur stratégique de Khartoum, la capitale, aux forces de soutien rapide FSR. Dans la foulée, le général Abdel Fattah al-Burhan a prévu la formation prochaine d'un gouvernement de transition pour une analyse. Eric Manilakiza, adjoint à Paris, Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
En fait, c'est une offensive qui a commencé fin novembre, début décembre. Ce qu'on voit, c'est que effectivement l'armée est à l'offensive, et quand on dit l'armée soudanaise, il faut tout de suite rectifier en disant l'armée et des milices qui lui sont alliées, qui ont été organisées grâce aux islamistes, grâce à des leaders tribaux qui sont très hostiles aux Darfouriens ou spécifiquement aux forces de Hemeti, et également grâce à l'Érythrée. Donc ces milices fournissent les troupes de choc et l'infanterie qui manquait jusqu'à présent à l'armée soudanaise. Et donc, on a eu des victoires. On en a eu d'abord en province, dans des villes de l'Est, comme la reprise de Wad Medani, de Sinjar, dans l'état du Sénat. Et ce qu'on voit, c'est effectivement que dans les dernières semaines et jusqu'à aujourd'hui, cette offensive a marqué des points importants à Khartoum, notamment à Khartoum Nord, hein, puisqu'il y a juste encore une petite enclave qui est prise. Des zones symboliques comme l'état-major des armées a été au centre de Khartoum, a été libéré, puisqu'il y avait un siège depuis pratiquement le début de la guerre. Et on peut penser que dans les jours qui viennent, la capitale, hein, c'est-à-dire les trois villes, Omdurman, Khartoum et Khartoum Nord, n'auront plus de troupes de Hemeti et seront sous le contrôle total de l'armée. Donc c'est une victoire pour le général Burhan, même si il faut poser la question des milices armées qui lui sont alliées aujourd'hui, mais qui défendent des options politiques qui ne sont peut-être pas les siennes.
Alors, le général Burhan a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement de transition. C'était samedi après la prise d'un secteur clé de la capitale situé à Khartoum Nord. Est-ce que c'est un gouvernement qui pourra faire face aux multiples crises que connaît ce pays et surtout trouver une solution aux problèmes de fond?
Écoutez, je crois que pour l'instant, les déclarations de général Burhan sont assez agressives, c'est-à-dire qu'on va vers la formation d'un gouvernement. Ce gouvernement gouvernera sous l'autorité absolue du général Burhan, puisque dans ce qui est prévu, il aura beaucoup plus qu'avant une autorité décisive sur le gouvernement. Et puis également, il ne faut pas oublier que la guerre continue, c'est-à-dire que dans l'ouest du Soudan, une partie de la province du Kordofan et surtout au Darfour, les combats vont continuer et on peut penser que même ils vont s'approfondir compte tenu du départ de Khartoum de très nombreuses troupes du général Hemeti. Donc je crois que le dispositif du général Burhan, c'est d'avoir une autorité civile présentable plus que les militaires pour exiger une aide massive de la communauté internationale et apparaître comme le seul véritable acteur politique légitime dans le pays. Alors évidemment, certainement les sanctions américaines qui ont souligné les massacres de masse commises par les forces de soutien rapide lui offrent une voie choisie pour cela, mais en même temps il faut se rendre compte que le général Hemeti peut rebondir politiquement et militairement, puisque lui-même également envisage de créer dans les prochains jours ou les prochaines semaines un gouvernement civil qui gouvernerait les zones que lui contrôle essentiellement dans l'Ouest.
Cela signifie l'émiettement du Soudan?
Cela signifie, disons, si on s'en tient à ce scénario, à une partition de fait du Soudan, mais pas du tout l'indépendance du Darfour. Hein. C'est une situation politique qui peut durer, ou au contraire, qui peut être résolue, soit militairement, soit par la négociation. Ce qui est sûr, c'est que pour aller à la négociation, les partisans de l'Hemeti voudront avoir le contrôle absolu du Darfour, ce qui veut dire prendre la ville d'El Fasher, qui est une ville qui a été défendue avec rage et beaucoup de succès jusqu'à présent par des contingents de l'armée, mais surtout les mouvements darfouriens, Zagawa, qui ont bénéficié d'un appui de Khartoum, enfin du général Burhan, et qui en même temps ont également bénéficié d'apports en hommes et en matériel venant du Tchad, même indépendamment de la volonté du président tchadien.
Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Notre reportage du jour pourrait bien s'intituler « Le cahier plaisir ». Grâce à lui, on va plonger dans la culture culinaire de l'Afrique subsaharienne, dont la batterie de saveurs est aussi dynamique que variée. Escale à Libreville, au Gabon, pour découvrir les mets qui font recette. Parmi les plus accessibles aux consommateurs locaux, le plus célèbre Tchebouchène, le plat national du Sénégal. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianguizé.
Sur place ou emporté avec ou sans sauce, tout est possible. La seule constante, les doses généreuses. Mais chez la très discrète Fatima, on n'y vient pas tout à fait par hasard. Le restaurant est excentré, n'affiche pas où ses couleurs. Pour savourer le tchebouchène comme à Dakar, le bouche à oreille suffit.
Même si on n'y est pas encore parti, mais par rapport à ce plan, on peut se projeter déjà et avoir une vision de déjà ce qu'ils mangent là-bas. Comme on dit, la naturelle horreur du vide. Il faut bien qu'on puisse manger. Du coup, il y a plus de vendeurs ouest-africains.
À quelques heures de là, la salle ne désemplit pas. Les abonnés de Nelly se bousculent à la porte. C'est le cas de Nelly qui travaille tout juste en face de ce dos tourné.
À la pause, je profite d'acheter un tchèque poisson. Ici, en ville, déjà au centre-ville, les places sont à partir de 3500 en montant, or que le tchèque, il a 1500, c'est abordable.
Parmi cette clientèle qui afflue de partout, certains arrivent ici le ventre vide et en profitent jusqu'à la dernière mouchée.
Très bon, c'est peut-être la meilleure spécialité sénégalaise. Tout le monde a ses richesses. Déjà, le Gabon est un pays très varié au niveau culinaire. Donc, ça ne fait pas un peu de mal d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'intégration africaine peut aussi passer par la gastronomie.
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis fin 2021, le tchebouchène parfume les tables gabonaises. Cette spécialité sénégalaise est autant appréciée des Libre-Noirs que le poulet yassa de Côte d'Ivoire, le mafé ou encore le très célèbre coup du Cameroun. C'est le menu du jour chez Rita, une restauratrice du marché Mombwe.
C'est un meilleur. Traditionnel, c'est dans tous les ethnies au Cameroun. Et oui, ça ne manque pas pendant le mariage. S'il y a le coquille, s'il n'y a pas le coquille pendant ton mariage, que le mariage n'a pas donné.
Agrémenté d'huile de palme et farci ou non de feuilles et légumes, le coquille entre progressivement dans les habitudes alimentaires du consommateur gabonais. Et d'où jeunes commerçants effrayants de ce gâteau de corneille.
La fabrication est faite à base du haricot, équipé à l'haricot, mis dans les vitamines. Et vous voyez sur la table, vous avez du tuberculeux. Mais comment ne pas apprécier un plat aussi savoureux?
De la gastronomie en évolution, l'art culinaire africain offre une source d'inspiration illimitée pour ceux qui osent sortir de leur zone de confort, selon les spécialistes. Libreville, Ismaël Obianguizé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Des scientifiques testent une nouvelle technique pour dissuader les braconniers qui s'attaquent aux rhinocéros menacés d'extinction pour leurs cornes très prisées. Dans le cadre d'une étude pilotée menée en Afrique du Sud, les chercheurs ont injecté de petites pastilles radioactives dans les cornes de rhinocéros vivants. L'objectif est de rendre les cornes radioactives afin de réduire la demande sur le marché noir. Maryse Dorclerc nous parle de la réserve de biosphère de Waterberg en Afrique du Sud avec le récit de Thierry Kaoré.
Three Quarters est l'un des 20 rhinocéros participant à une étude pilote au cours de laquelle des pastilles radioactives ont été injectées dans leurs cornes. Cet animal de 2,5 tonnes a reçu la dose la plus élevée de l'étude menée par l'initiative de recherche sur la conservation de l'Isotope Project. L'objectif est de rendre les cornes de rhinocéros radioactives afin de réduire la demande sur le marché noir et de décourager les braconniers de rhinocéros qui tentent d'en tirer profit. Les chercheurs testent le sang de rhinocéros pour s'assurer que les animaux ne sont pas blessés. Harry Van Deventer est le fondateur et le directeur général de l'orphelinat des rhinocéros et il supervise les animaux de recherche dans la région de Waterberg en Afrique du Sud.
Nous avons tous cherché et essayé de trouver la solution miracle pour mettre fin au braconnage des rhinocéros. Je pense que cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour stopper le braconnage dans son élan. C'est une idée brillante.
It is a brilliant idea.
Il y a 6 mois, le personnel de l'orphelinat a aidé les scientifiques à insérer les pastilles radioactives dans les cornes des rhinocéros sauvages. Récemment, des scientifiques sud-africains et américains sont revenus pour prélever d'autres échantillons de sang sur les animaux de recherche et mesurer les rayons gamma émis par les pastilles. James Larkin, qui dirige le programme financé à l'échelle internationale, a étudié la dose de rayonnement utilisée dans l'étude.
J'ai passé 2 ans et demi à développer des modèles informatiques des animaux, à effectuer ces tests et à les comparer aux résultats de la Commission internationale de protection contre les radiations. Et nos résultats se comparent extraordinairement bien.
Mais Larkins affirme que la dose est encore assez forte pour déclencher les détecteurs de radiation aux frontières internationales, ce qui rend plus difficile la contrebande des cornes. Les scientifiques espèrent que les tests sanguins confirmeront que les animaux sont toujours en bonne santé. Les résultats sont attendus dans environ 2 mois. Si le financement le permet, la technologie pourrait être proposée aux propriétaires de rhinocéros avant la fin de l'année.
Le président Donald Trump a annoncé lundi des droits de douane de 25% sur l'aluminium et l'acier qui pourraient frapper particulièrement le Canada et le Mexique, les deux principaux exportateurs de ces produits vers les États-Unis. L'offensive commerciale de Trump a également suscité des critiques de la part du principal concurrent des États-Unis, la Chine. C'est un sujet d'Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, récit Lionel Gaïma.
Une nouvelle salve dans la guerre commerciale du président Donald Trump. Lundi, il a annoncé des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium.
C'est une grosse affaire, c'est une grande affaire. C'est un nouveau départ pour rendre l'Amérique à nouveau riche.
Howard Lutnick est le candidat proposé par Trump pour diriger le département du commerce.
Vous êtes le président qui défend les métallurgistes américains. Je suis extrêmement impressionné et ravi d'être à vos côtés.
Le conseiller commercial de Trump affirme que cette mesure aidera les producteurs nationaux et soutiendra l'économie et la sécurité nationale du pays. Les principaux fournisseurs étrangers d'acier, le Canada, le Brésil, le Mexique et la Corée du Sud, seront probablement les plus durement touchés. Plus tôt dans la journée de lundi, les droits de douane supplémentaires de 10 à 15% imposés par Pékin sur les produits américains sont entrés en vigueur en guise de contre-mesure à la hausse de 10% imposée par Trump sur les produits chinois au début du mois. Guo Jiankun est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Il n'y a pas de gagnant dans les guerres commerciales et tarifaires. Ce qu'il faut maintenant, ce n'est pas une augmentation unilatérale des droits de douane, mais un dialogue et une consultation sur un pied d'égalité fondé sur le respect mutuel. Nous demandons instantanément aux États-Unis de corriger leurs mauvaises pratiques et de cesser de politiser et d'instrumentaliser les questions économiques et commerciales.
Mais Trump affirme que non seulement ses rivaux, mais aussi ses alliés ont profité des avantages offerts par les États-Unis.
Nous étions battus à la fois par nos amis et par nos ennemis. Notre pays a besoin que l'acier et l'aluminium soient fabriqués en Amérique et non à l'étranger. Nous devons créer pour protéger l'avenir de notre pays une résurgence de l'industrie manufacturière et de la production américaine comme on n'en a pas vu depuis de nombreuses décennies.
De nombreux économistes estiment que les droits de douane augmentent les prix à la consommation. Les spécialistes de chaînes d'approvisionnement et de la logistique affirment que la décision de Trump soulève également d'importantes questions de politique mondiale. Professeur Sundaresh Heragu de l'Université d'État de l'Oklahoma.
On ne sait pas s'il s'agit d'une stratégie de négociation, si elle sera permanente. Est-ce que cela se limite au Canada, au Mexique et à la Chine, comme c'est le cas actuellement, ou est-ce que cela va s'étendre à l'Union européenne, par exemple, ou même aux pays des BRICS, dont font partie le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et 12 ou 14 autres pays.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.